Vous écoutez l'épisode 162 du podcast « Mes trucs de prof » dans lequel je vous parle de feedback et de son importance dans la pratique enseignante. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de partager avec vous cet épisode sur le feedback et d'enfin réussir à l'enregistrer parce que c'est un épisode que je couvre depuis assez longtemps. Je pense qu'il est dans ma liste d'épisodes à faire depuis même plusieurs années, mais je crois que j'avais besoin de le maturer avant de pouvoir vous en dire tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et en même temps, c'est un sujet dont je vous ai parlé en filigrane dans plusieurs épisodes. Le mot feedback, c'est un mot que j'adore, même si je sais que parfois utiliser des mots anglais hérisse le poil de certains et certaines, il fait pour moi partie de ces mots qui n'ont pas de réel équivalent en français. Je l'utilise énormément et ce qui m'a d'ailleurs valu à plusieurs reprises des gentilles petites moqueries en formation parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup. Et je me souviens d'ailleurs que sur les premières constellations du plan français que j'avais accompagné en 2020-2021 quand j'étais conseillère pédagogique, c'était devenu un petit jeu avec un enseignant qui se reconnaîtra s'il écoute un jour cet épisode, où il notait avec amusement à chaque fois que j'utilisais le mot feedback. Je crois que dans cet épisode, je vais exploser les compteurs. Donc, j'ai envie dans cet épisode de clarifier ce qu'est le feedback et à quel point il est et devrait être partout. Et puis, je vais également vous dire comment l'utiliser, comment faire des feedbacks, comment les identifier et parfois aller les chercher. Et je vais commencer par aborder leur importance pour tous, pour les élèves, comme pour les adultes, pour les enseignants, comme pour les formateurs, les IEN, les parents, pour tout le monde en fait. Et cet épisode, il va rejoindre les quelques autres épisodes qui existent déjà dans la catégorie « Les indispensables » que vous pouvez trouver sur mon site mestrucsdeprof.fr. Dans cette catégorie, j'ai mis les épisodes qui me semblent pour moi être indispensables, être la base de tout ce que je dis dans d'autres épisodes. Donc, qu'est-ce que c'est que le feedback ? En premier lieu, le feedback, c'est l'ensemble de toutes les informations, sensorielles, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, etc., qui va permettre à notre cerveau de comparer les effets de nos actions, donc ce que nous faisons, avec les prédictions que nous avions faites avant, ce que nous pensions qu'il se passerait. En gros, je fais quelque chose, j'imagine consciemment ou pas, qu'il va en résulter une autre chose. Et en fonction de la réalité, soit ça se passe comme j'avais prévu et mon cerveau va confirmer la prochaine prédiction, soit au contraire, il va recevoir un signal d'erreur et donc dans ces cas-là, il va pouvoir corriger la prochaine prédiction et donc réajuster la prochaine action. Et ça, en fait, on le fait tout le temps. C'est pas seulement professionnel, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Par exemple, si je mets, je prends un exemple personnel, mais quand je mets ma bouilloire en fonte sur le feu à fond, et je me dis que ça va bouillir plus vite si je le mets à fond, et que ce sera bien chaud comme j'ai envie, donc ça c'est ma prédiction. Et en effet, ça boue très très vite, sauf que du coup, ça déborde avant que je n'aie le temps de réagir, parce que je pensais avoir le temps de m'occuper de mes tartines en même temps. Et du coup, mon cerveau, il reçoit un signal d'erreur qui fait que je vais réajuster les prédictions suivantes. Et comme ça va déborder plusieurs fois, ça a débordé en réalité plusieurs fois dans des contextes différents, avant que je ne réussisse à déterminer qu'il fallait que je mette un minuteur de 3 minutes pour que ça ne déborde pas. Enfin bref, du coup, j'ai j'ai fait des choses, j'ai pensé qu'il allait se passer des choses, et la réalité m'a envoyé des signaux d'erreur à certains moments qui ont fait qu'à chaque fois, j'ai réajusté et j'ai changé ce que j'allais faire. Donc, je ne vous dis pas combien de prédictions cela m'a pris pour ajuster jusqu'aux 3 minutes. D'ailleurs, ça fait bien rire mon conjoint. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une rétroaction. C'est d'ailleurs une des traductions possibles du feedback. C'est cette idée de boucle. Je fais quelque chose, je reviens dessus pour pouvoir aller plus loin, encore mieux. Et en classe, eh ben, vous le faites aussi. Vous prenez du feedback pour ajuster vos prédictions. Vous allez prendre des indices, par exemple, dans le comportement des élèves. Vous allez prendre des indices dans ce qu'ils réussissent ou non quand vous leur confiez une tâche. Vous allez prendre aussi des indices sur le bruit, sur l'agitation ou dans les signes de concentration ou de déconcentration. Et vous allez vous ajuster ou ajuster la prochaine fois que vous allez faire quelque chose ou proposer quelque chose, comme dans l'exemple de ma bouilloire. Et donc, en fait, cet exemple, c'est vraiment pour montrer que le feedback est un peu notre mode d'apprentissage par défaut, et qu'en apprenant à en faire et qu'en en faisant aussi un ingrédient de base dans nos pratiques éducatives, pédagogiques, andragogiques, quelles qu'elles soient, eh ben, nous allons pouvoir rendre nos pratiques aussi plus efficaces en affinant les feedbacks qu'on va pouvoir renvoyer aux autres ou les situations dans lesquelles on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait du feedback. D'ailleurs, le feedback, c'est un des 4 piliers de l'apprentissage qui ont été mis en avant par les sciences cognitives. Et je vous en parlais ça dans l'épisode 14 du podcast qui s'appelait Neurosciences et enseignement. Le feedback, qu'on peut aussi appeler retour sur information, est donc un de ces 4 piliers aux côtés de l'engagement actif, de l'attention et de la consolidation. Et c'est donc une des 4 conditions sine qua non pour qu'il y ait apprentissage. Et puis le mot feedback, il va aussi renvoyer à plusieurs choses, c'est-à-dire que à la fois le feedback, c'est cette information qui nous revient après une action, qu'elle nous revienne de la situation en elle-même ou d'une personne, mais ça peut aussi être le nom qu'on va donner à l'interaction au cours de laquelle une personne nous fait un retour sur nos actions. Donc quand on dit on se prend un temps de feedback ou on va se faire un feedback par exemple, là c'est, on appelle feedback le moment où on fait le feedback. Donc le mot désigne à la fois le message du feedback, à la fois le moment du feedback, à la fois le concept du feedback. Au printemps 2023, je crois, une coachée m'a conseillé un livre sur le feedback, donc c'était le livre de Stéphane Mouriou, en me disant « il te plaira ». En écho sûrement à des choses qu'on s'était dites pendant le coaching. Et en effet, donc je l'ai acheté, je l'ai lu, et je le conseille désormais à mon tour dès que j'en ai l'occasion. Et donc dans son livre, Stéphane Mouriou, il explique que le feedback, c'est fait pour faire grandir. Et d'ailleurs que le terme feedback lui-même pourrait traduire l'idée de nourrir en retour. Donc le feedback, c'est quelque chose qui est censé nous faire grandir, et c'est assez naturel quand il vient des situations ou des objets, comme dans la situation de ma bouilloire, puisque je reçois un retour sur ce que j'ai fait et je trouve comment améliorer la situation la fois d'après. Donc je grandis dans cette situation-là. Mais quand le feedback est donné par un humain, le fait de faire grandir et vouloir nourrir en retour, ça devient un prérequis, ça devient une intention, voire même un état d'esprit qui doit être préalable en fait au feedback de la part de la personne qui va faire ce feedback-là. Si on n'a pas cette intention-là, si on n'a pas l'intention en faisant un feedback, de faire un feedback qui va faire grandir quelqu'un et qui va la nourrir en retour suite à une action qu'elle a faite, alors soit on ne dira rien et on ne fera pas de feedback du tout, soit on va faire quelque chose, on va dire quelque chose, mais qui sera autre chose qu'un feedback. On ne va pas avoir l'intention de faire grandir la personne, et à ce moment-là, on va juste lui faire un compliment ou une critique ou dire autre chose, mais ce ne sera pas un feedback. Et le truc, c'est que si le feedback en fait est censé nous nourrir et nous faire grandir, quand on n'en a pas, quand il nous manque du feedback ou quand il est mal fait, ça peut nous désengager ou ça peut affecter notre image de nous-mêmes. Et ça, c'est valable pour nous en tant qu'enseignants, vous qui écoutez, mais n'importe quel professionnel, n'importe quel adulte, mais c'est valable aussi pour les élèves. Donc, quand on n'a pas assez de feedback, on n'est pas assez nourri pour bien grandir et on se désengage ou on a une mauvaise vision de nous-mêmes. Donc, il existe différentes sortes de feedback. Nous avons vu au début que le feedback, il envoie deux messages. Soit le premier message qui va être « continue, ça fonctionne bien comme ça », soit un autre message pour corriger quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et le message, ce serait « fais autrement, ça ne fonctionne pas comme tu voulais » ou « ça ne fonctionne pas comme ça devrait ». Et pour identifier ces deux types de feedback, on entend parfois « feedback positif pour le premier » et « feedback négatif pour le second ». L'idée derrière ça, c'est de se dire que le feedback positif, il encourage à continuer comme ça, il valide quelque chose, alors que le feedback négatif, il envoie le message, le signal d'erreur pour corriger derrière. C'est assez clair et en même temps, le mot négatif pourrait induire une incompréhension qui pourrait laisser croire qu'on peut être juste négatif et que c'est un feedback. Et c'est pourquoi j'aime assez les mots proposés à la place par Stéphane Mourioux dans son livre. Il va proposer donc soit du feedback positif, et celui qui n'est pas positif, ce serait du feedback correctif. Pour remplacer cette idée de négatif, pour dire que l'idée, c'est vraiment qu'on est dans une intention de faire grandir et de corriger quelque chose pour que ça se passe mieux après, qu'on va être tourné vers le futur. Et qu'il ne s'agit donc pas juste de pointer du doigt ce qui n'a pas été, mais de pouvoir transformer ça en « qu'est-ce que je fais demain ? Comment je transforme ça ? Comment j'apprends de cette erreur ?» Et donc l'idée de se dire qu'on fait un feedback correctif, je suis assez d'accord pour dire que ça induit davantage cette idée de faire grandir l'autre. Et donc, il n'y a que deux types de feedback qui sont tous les deux des feedbacks constructifs, puisqu'ils permettent à tout le monde d'avancer et de progresser. C'est le feedback positif qui nous permet de prendre conscience de ce que nous faisons efficacement et le feedback correctif qui va nous permettre de progresser à partir de ce qui n'a pas forcément bien fonctionné ou qui n'était pas forcément très efficace ou souhaité. Et du coup, dans cette logique de deux feedbacks qui se veulent tous les deux constructif, eh bien le feedback négatif n'a pas vraiment lieu d'exister parce que faire un feedback, ça ne consiste pas à lister ce qui a été mal fait dans le passé et d'appuyer dessus, mais plutôt de se focaliser sur ce qui pourra être mieux fait dans le futur. Un autre point important qui découle de ça, c'est l'importance et la nécessité de faire des feedbacks positifs. On n'a pas seulement besoin de savoir ce qu'on doit perpétuellement améliorer, ce qui va nous renvoyer une image de « ce n'est jamais assez » et façonner aussi d'une certaine manière le regard que nous portons sur nous-mêmes. Nous avons besoin de savoir ce que nous faisons correctement et sur quoi nous pouvons nous appuyer. Quels sont nos points d'appui, quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'on fait déjà bien, qu'est-ce qui est déjà là pour pouvoir ensuite continuer de progresser. Et ça, c'est une chose importante quand on enseigne, mais aussi quand on forme, parce que c'est souvent ce que je dis aux personnes que j'accompagne quand elles se lancent dans la formation, par exemple, et j'ai fait pareil au début, on pense qu'il faut absolument trouver des trucs à corriger dans la pratique de l'autre, et on finit par ne se focaliser que sur ça, ce qui va d'ailleurs entacher la relation, et aussi l'estime professionnelle de tout le monde, hein, de celui du coup qui n'arrive pas à tout le temps trouver des trucs à corriger, et de celui qui est perpétuellement en train de se faire corriger. Et donc, avant toute chose, avant de se focaliser sur les feedbacks correctifs, en fait, il est vraiment urgent d'apprendre à augmenter la quantité de nos feedbacks positifs. Et ces feedbacks positifs, ils sont loin de n'être que des compliments ou des remerciements. Ils consistent vraiment à dire « Regarde, quand tu fais ça, ça fonctionne, tu obtiens tel et tel résultat, alors continue de le faire. » C'est ça un vrai feedback positif qui va faire avancer. Il s'agit vraiment de mettre des mots sur ce que les personnes autour de nous font bien pour qu'elles puissent continuer de le faire bien. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. Ça redonne du sentiment de compétence à l'autre. Et ça, c'est vraiment un ingrédient nécessaire à la motivation et qui va aussi nourrir l'engagement. Et puis, en fait, de toute façon, il n'est pas très efficace de ne faire que du feedback correctif aux gens sans prendre le temps de faire du feedback positif, parce que ce sont justement nos forces, nos points d'appui qui vont nous permettre de mettre en œuvre les ajustements nécessaires pour tirer parti des feedbacks positifs, des feedbacks correctifs ensuite. Donc qu'ils soient positifs ou correctifs, les enseignants, et oui, du coup, je vais commencer par parler des enseignants avant de parler des élèves, les enseignants manquent cruellement de feedback extérieur et de feedback positif, notamment sur leur pratique. En fait, les rendez-vous de carrière sont vraiment trop rares, trop espacés pour pouvoir remplir cette mission efficacement, et la rareté, leur rareté dans la carrière, ben, fait que ça devient des moments de stress trop grands pour vraiment bénéficier efficacement d'un feedback régulier qui nous fasse progresser régulièrement. D'ailleurs, dans les différents accompagnements individuels que je fais, souvent, c'est le fait de donner du feedback aux personnes ou de leur permettre de voir comment trouver et voir le feedback dans leur pratique qui leur redonne confiance. Hier encore, dans un coaching, il y a quelqu'un qui me disait avec vraiment beaucoup d'émotion, je me sens capable, après avoir justement identifié les feedbacks qu'elle recevait et qu'elle n'arrivait plus à voir. Donc oui, quand on enseigne, on a finalement peu de feedback extérieur, on est souvent seul dans nos classes et du coup nous avons peu de validation, peu de retour sur ce que nous faisons bien avant même de parler de ce que nous devons améliorer. Et lorsque nous sollicitons du feedback, c'est souvent parce que nous rencontrons un obstacle ou une difficulté, et donc c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher du feedback qui va être du coup du feedback correctif. Mais finalement, on manque cruellement de feedback positif, et ce qui nuit aussi grandement à notre estime professionnelle et qui va créer ces émotions en accompagnement quand on met des mots sur la multitude de gestes non conscientisés et quand on met en avant vos compétences et ce que vous savez déjà faire, etc. Donc, ce que je disais tout à l'heure, rappelez-vous, c'est que le feedback est partout. Ce n'est pas seulement ce que des personnes plus expertes ou des pairs nous disent. C'est vraiment, on a dit que c'était des informations sensorielles que notre cerveau prenait. Sauf que parfois, on ne les voit plus. Parfois, on fait des choses aussi avec beaucoup, tellement de fluidité que ça devient presque intuitif et on ne voit plus les feedbacks, on ne les identifie plus. Et il est pourtant important de pouvoir voir les feedbacks, les sources, les différentes sources de feedback et de pouvoir s'autonomiser pour en trouver, puisque ben, le contexte fait que nous n'en avons pas suffisamment quand on est dans sa classe. Donc l'idée là, c'est de se dire que on va pouvoir identifier les différentes sources de feedback qu'on peut avoir ou qu'on peut solliciter aussi sur notre pratique. Et nous devons aussi être en mesure d'aller chercher du feedback positif et pas seulement d'aller chercher perpétuellement du feedback correctif. Et ça n'a rien de narcissique, en fait, d'aller chercher du feedback positif. C'est juste ce qui va nous permettre d'ancrer nos points d'appui et de nous rassurer et de nous dire « Ok, ça, c'est pas mal, ça, c'est bien, ça, je le garde, ça, c'est un geste professionnel, je suis efficace là-dedans, je suis dans ma zone de confort là-dedans, je sais le faire, maintenant, je peux aller plus loin. » On a besoin, je vous en parlais dans l'épisode sur la confiance en soi, on a besoin de perpétuellement faire des allers-retours et de revenir dans notre zone de confort, dans notre zone de compétence pour pouvoir ensuite aller explorer un peu plus loin. Et puis du coup, c'est important de pouvoir aussi contourner le biais de négativité, hein, qui est un biais cognitif qui nous fait nous concentrer sur ce qui ne va pas et qui va du coup nuire non seulement, notre biais de négativité peut non seulement nuire à la qualité des feedbacks que l'on va faire, mais ça va aussi nuire à notre capacité à recevoir des feedbacks positifs, à les voir et à les entendre sans les remettre en cause. Voilà, c'est l'idée d'orienter notre attention aussi sur ce qui va bien, comme on le fait pour nos élèves quand on est dans de l'évaluation positive, comme on devrait le faire en tout cas, et ben de pouvoir se le faire pour soi-même aussi. Je vous disais donc que le feedback, il est partout. Les feedbacks, ils nous viennent, et là je me focalise sur votre pratique enseignante, ben ils vont venir du réel, de ce qui se passe vraiment dans votre classe, de vos élèves. Le feedback, ça va venir de ce qui fonctionne, et aussi de ce qui ne fonctionne pas pour le feedback correctif, mais apprenons à voir aussi ce qui fonctionne bien et qui nous envoie aussi du feedback positif. Le feedback, il peut aussi venir de nos anciens élèves, ce qu'ils reviennent nous dire de comment ils ont vécu les choses. Ou on peut aussi aller chercher du feedback auprès de nos élèves régulièrement et leur demander quels sont les moments où ils apprennent bien, où ils se sentent bien, qu'est-ce qui les aide dans ce qu'on fait, etc. Le feedback, parfois, il peut venir des retours des parents d'élèves. Le feedback, dans la situation, il peut venir de l'activité de vos élèves, de l'implication qu'ils ont dans certaines tâches, dans certaines activités, etc. Et puis, le feedback, il peut aussi venir de vos pairs. Alors, parfois, c'est un peu à double tranchant, parce qu'on a aussi des personnes qui ne savent pas forcément faire des feedbacks constructifs, c'est-à-dire qui soient soit positifs, soit correctifs, mais pas que négatifs. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'apprendre à faire du feedback et de vous-même donner du feedback positif à vos élèves, mais aussi à vos collègues, profs, AESH, ATSEM, direction, etc. Et pour donner du feedback positif, il ne s'agit pas simplement de dire oh, « c'est trop bien ce que tu fais », c'est très gentil et toujours agréable à recevoir, mais ça peut être malaisant pour les personnes qui ne savent pas forcément accueillir les compliments, etc. Donc là, j'ai bien dit compliments. Et surtout, ça ne dit pas vraiment pourquoi. L'idée, c'est de dire, quand on fait du feedback, c'est de dire en quoi c'est bien. Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça permet d'obtenir ? C'est quoi le résultat quand tu fais ça ? Et donc, si je bascule dans ma posture de formatrice, si je dis à quelqu'un oh, « tu gères hyper bien ta classe » ou « j'adore ta manière de faire la classe », qu'est-ce que la personne, elle apprend et qu'est-ce qu'elle en garde ? Qu'est-ce qu'elle doit continuer de faire finalement ? Surtout si je dis ça à une personne qui débute ou qui fait les choses de manière très intuitive, c'est un joli compliment, mais ça ne fait pas grandir. Ça ne permet pas à la personne de prendre quelque chose de précis. Alors que si à la place, je lui dis « tu poses hyper bien le cadre dans ta classe parce que tu vois par exemple, quand tu rappelles les règles régulièrement, t'hésites pas à répéter, tu régules suffisamment tôt pour que le bruit n'ait pas le temps de trop augmenter, que t'aies pas besoin d'élever la voix ensuite. » Voilà, là c'était des exemples, mais quand je fais ça, je lui donne un geste précis à reproduire. Donc, je ne me contente pas de dire « bon, la gestion de classe, c'est canon ». Je lui dis en quoi c'est canon et qu'est-ce qu'elle doit continuer de faire pour que ça reste canon. Et ça peut être la même chose avec les personnes qu'on a dans nos classes, les ATSEM, les AESH, par exemple. Si je dis à mon AESH « tu t'y prends vachement bien avec Mathilde, tu l'accompagnes vachement bien », bon, je lui fais un compliment, c'est cool, mais c'est pas la même chose que si je lui dis oh, « c'est bien ta façon d'accompagner Mathilde parce que tu vois, tu lui relis les consignes systématiquement, mais par contre après tu la laisses faire toute seule et ça c'est top parce que du coup elle gagne en autonomie. Ben » là, je lui dis en quoi elle accompagne bien Mathilde. Donc, la première étape pour faire un feedback positif, et un feedback d'ailleurs tout court, même si c'est un feedback correctif, c'est d'avoir l'intention de faire grandir l'autre. Et la deuxième étape, c'est d'aller plus loin que le compliment, mais de préciser ce que la personne pourra continuer de bien faire ensuite pour pouvoir maintenir ce niveau correct et ensuite pouvoir ancrer ça pour aller éventuellement accueillir ensuite, plus tard, un autre jour, un autre moment, un feedback correctif. Pour le feedback correctif, c'est la même chose, mais déjà, assurez-vous d'abord, quand vous voulez faire un feedback correctif à la personne, que l'autre personne ait envie de recevoir votre feedback, qu'elle soit prête à l'écouter, que ce soit le bon moment. Ne lui imposez pas un feedback correctif alors qu'elle s'y attend pas, qu'elle veut pas. Donc, ça me fait penser à mon épisode sur le consentement, mais là, on peut aussi demander du consentement. Voilà, j'ai vu que tu as hyper bien fait ça, etc. Si tu veux, je peux te faire des propositions pour aller encore plus loin. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Ou n'hésite pas à revenir vers moi si tu as envie qu'on en discute. Et laisser la personne venir chercher son feedback. L'idée aussi, quand on fait du feedback correctif, c'est de réussir à prendre appui sur ce que la personne sait faire, et donc sur du feedback positif, et de vous focaliser sur comment mieux faire la prochaine fois, sans vous appesantir sur ce qui n'a pas fonctionné, sans faire la liste de « t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça », et puis ensuite, à ce moment-là, en plus, t'as pas bien fait ça. C'est plutôt, ben, la prochaine fois, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire telle chose. Donc, efforcez-vous de trouver ce qui fonctionnait déjà, et puis utiliser, et puis utiliser « et » d'ailleurs, plutôt que « mais », et puis donner ce qui pourra être fait de mieux la prochaine fois. L'idée, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas lister ce qui ne va pas, mais vraiment de donner des pistes pour progresser. Et on en revient là à cette intention du feedback qui est vraiment un prérequis. Voilà, j'aimerais bien vous en dire plus, mais en réalité, ça pourrait faire l'objet d'une formation complète. Donc si déjà vous gardez en tête l'idée que vous pouvez donner et donner et donner encore du feedback positif autour de vous, à vos collègues notamment, ce serait génial. Et on n'y est pas forcément habitué, donc vraiment je vous invite à vous challenger et à le faire de plus en plus. Et puis bah, entraînez-vous aussi à la maison, avec vos ados, avec vos conjoints, avec votre famille. Le feedback positif, vous pouvez en faire partout, même dans les magasins, avec tout le monde en fait. Et je pense particulièrement à ceux d'entre vous qui ont des ados à la maison avec lesquels on est bien prompt à noter tout ce qu'ils n'ont pas fait, les chaussettes qui traînent par terre, le lave-vaisselle qui n'est pas rangé, nanana. Ben, ça peut être un challenge aussi de se dire « Ok, faisons aussi du feedback positif avant d'aller faire de la critique ou du feedback correctif avec nos ados. » Et ça me fait une bonne transition pour vous parler du coup de la place du feedback en classe au profit des élèves et des apprentissages. Donc là, avec les élèves, on va pouvoir transposer les mêmes principes, c'est-à-dire que les élèves ont besoin de feedback positif et de feedback correctif. Et ces feedbacks, eh ben, ils doivent leur permettre de savoir comment continuer de bien faire ce qu'ils ont déjà fait ou comment mieux faire à l'avenir, mieux réussir à l'avenir ce qu'ils n'ont pas réussi, ce qui a été difficile, etc. Donc nos feedbacks, ils vont pouvoir concerner en classe tous les domaines et pas seulement le disciplinaire. Et ils vont aussi bien concerner nos interactions orales. Donc on va aussi bien faire des feedbacks à l'oral que des retours à l'écrit. Et ça, je vous en parlais des retours à l'écrit, des annotations dans l'épisode 83 qui s'appelait « Comment annoter les travaux d'élèves de façon plus explicite ». Donc sur le même principe que mes précédents exemples, si je me contente d'écrire très bien, ben je ne vais pas faire un retour suffisamment efficace pour que l'élève sache ce qui a bien fonctionné et ce qu'il doit refaire de bien la prochaine fois. Je ne dis pas à l'élève comment il va pouvoir continuer efficacement. L'idée, c'est de pouvoir dire à l'élève, alors à l'écrit ou à l'oral, selon la situation et selon ce qui est possible, ben, pourquoi c'est très bien ? Qu'est-ce qu'il a bien fait ? Ah, il a bien mémorisé, il a bien réussi à réinvestir telle et telle connaissance, il a bien structuré son propos, il a bien, enfin, selon la matière, la discipline, le niveau, qu'est-ce que les élèves ont bien fait ? Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir faire ce genre de feedback complet, précis, dans toutes les situations d'apprentissage. Et ce n'est pas forcément nécessaire tout le temps, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Parce que parfois, ben, l'erreur, le fait de signifier juste l'erreur en elle-même et de savoir qu'à tel endroit, je me suis trompée, des fois, c'est un feedback correctif suffisant quand les élèves sont en mesure de rectifier tout seuls. On ne va pas toujours tout détailler. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que dans tous les cas, le feedback, il a besoin d'être le plus immédiat possible après l'erreur, le plus rapproché du moment où on fait l'erreur. On sait que ben, un feedback qui est différé et qui est très loin est beaucoup moins efficace, voire pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion autour de ce feedback et de savoir sous quelle forme on va pouvoir s'assurer que les élèves vont avoir du feedback, ça ne va pas forcément passer par nous, et quel type de feedback va leur être utile à ce moment-là. Concernant la manière de faire des feedbacks aux élèves, il y a un autre épisode du podcast où je vous parlais de feedback et qui est aussi d'ailleurs dans ma liste d'indispensables, c'est l'épisode 46 sur l'attitude VIP de Mireille Brigaudiot. VIP, c'est pour valoriser, interpréter et poser l'écart. Et donc le VIP, en ce qui me concerne, a été vraiment à la base de ma pratique enseignante. Je l'ai appris de Mireille Brigodio elle-même et de ma prof d'IEFM Solange Bornaz, que je salue si elle m'écoute un jour, quand j'étais à l'UFM. Et c'est vraiment une attitude, une façon de faire le feedback assez efficace qui va pouvoir être réalisée dans presque toutes les situations d'apprentissage. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller écouter l'épisode 46 pour en savoir plus. Mais vraiment, ce que je peux juste vous dire, c'est que l'attitude VIP, elle va permettre, comme le dit d'ailleurs Roland Guagou, de chercher ce qu'il y a de juste dans une réponse fausse pour pouvoir ensuite en faire un retour, un feedback aux élèves avant de poser l'écart. Et le fait de poser l'écart, c'est ce qui va constituer le feedback correctif. En classe, il y a des feedbacks, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des feedbacks que nous allons faire, nous, directement aux élèves, et puis il y a des feedbacks que nous allons organiser. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout, tout le temps, et faire du feedback à chaque élève, à chaque fois qu'il fait quelque chose ou à chaque fois qu'il fait une erreur. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, par ce que nous mettons en place dans la classe, par les modalités, par l'organisation de classe, on va s'assurer que les élèves aient du feedback. Par exemple, si nous laissons les élèves en autonomie et qu'ils disposent d'une autocorrection pour quelque chose qu'ils ont à faire seuls, eh bien là, en proposant une autocorrection, on s'assure qu'ils aient du feedback immédiat sur l'exercice qu'ils viennent de réaliser, même si nous ne sommes pas disponibles parce qu'on est en train de faire du feedback, par exemple, à quelqu'un d'autre. Donc ce sont des feedbacks qui parviendront aux élèves sans notre intermédiaire. Et lorsque nous planifions nos séances, lorsque nous préparons nos exercices, en fait, il est important d'avoir ce souci du feedback, de se demander si les élèves auront du feedback et sous quelle forme. Est-ce que ça passe par nous? Est-ce que ça passe par une autocorrection? Est-ce que ça passe par une validation de quelqu'un d'autre ou des pairs, etc. Mais de se questionner sur le feedback qu'on va pouvoir leur donner de manière la plus immédiate possible. Et concernant les feedbacks que nous faisons aux élèves, ceux-là vont avoir différentes fonctions. Soit ils vont permettre, à l'instar du VIP, de valoriser ce qui est déjà là, ce qui est correct, tout en indiquant l'écart, c'est-à-dire le chemin qui reste à parcourir aux élèves. Et donc ça, c'est le V et le P du VIP. Le feedback, il peut aussi avoir pour fonction d'inviter les élèves à mettre des mots sur leur stratégie, sur leur procédure, sur leur pensée. Et dans ce cas-là, on va dire que c'est un feedback qui va avoir une fonction métacognitive. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs retrouver dans la phase I du VIP. On peut aussi faire des feedbacks qui vont plutôt avoir une visée méthodologique et qui va davantage se centrer sur comment les élèves se sont organisés, comment ils ont fait les choses et comment ils peuvent peut-être mieux s'organiser la prochaine fois, sans que ce soit tourné vers l'apprentissage en lui-même ou vers la tâche, mais plus vers comment ça s'est passé sur le processus. Et donc, c'est différentes fonctions que peuvent avoir les feedbacks que nous faisons aux élèves. Et d'ailleurs, vous trouverez sur le site Canotech une courte vidéo hyper claire sur ces différents types et fonctions des feedbacks. Je vous mettrai le lien avec l'épisode. Et dans cette vidéo, on y explique notamment que les feedbacks que nous faisons aux élèves, ils doivent vraiment se centrer sur la tâche ou sur le processus, mais éviter de faire des feedbacks sur la personne, sur les élèves. Parce que quand on fait un feedback sur la personne, sur ce qu'ils sont, on va les enfermer dans des étiquettes et ça va devenir des jugements de valeur, des jugements de leur personne. Et ça, je pense que je vous en parlais dans l'épisode 67 où j'évoquais la différence entre état d'esprit fixe et état d'esprit de développement. Quand on met des étiquettes, que ce soit des étiquettes des positives ou négatives sur l'élève, en fait, on les enferme dans un état d'esprit fixe, comme s'ils sont comme ça, et pas dans un état d'esprit de développement qui va leur permettre de progresser à partir de leurs erreurs. Donc, quand on fait un feedback, c'est sur la tâche, sur ce que l'élève a fait, sur le processus, sur comment ça s'est passé, mais pas un feedback sur « tu es comme ci » ou « tu es comme ça », pas sur leur personne. Ce qu'il est important de retenir, c'est que pour nous, comme pour nos élèves, le fait de recevoir des feedbacks positifs sur nos réussites, ça va renforcer notre motivation et celle des élèves donc, et ça rend plus autonome. Et ça, ça va dans le sens de la théorie de l'autodétermination des psychologues de C. R. Ryan, qui présente le besoin d'autonomie, le besoin de compétence, de se sentir compétent, et le besoin d'appartenance, donc ces trois besoins, comme les trois principaux leviers de motivation. Et donc, le feedback positif notamment, va contribuer à développer un sentiment de compétence. Ça va contribuer aussi à développer notre autonomie et nous rendre plus capables tout seuls d'avancer, de progresser grâce au feedback qu'on aura reçu. Et ça nous met aussi en lien avec l'autre quand on reçoit un feedback d'une autre personne, notamment un feedback positif, ça nous met en lien avec les autres personnes. Et donc, ben, le feedback, c'est à la fois un ingrédient inconditionnel de l'apprentissage. C'est même presque un état d'esprit, une façon de parler. C'est aussi un moment, c'est un type d'interaction. Le feedback, c'est aussi un geste professionnel et un ingrédient pour la motivation et l'engagement. Donc voilà pourquoi je l'affectionne tant et que je le cite tout le temps. Et il y a un autre aspect du feedback que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait aussi qu'il y contribue à améliorer la créativité. Ça, c'était quelque chose que j'avais, dont j'ai pris conscience il y a 2 ans, alors que j'assistais à une conférence. C'était pour les 20 ans du magazine Cerveau et Psycho, et je me souviens des propos de la chercheuse Emmanuelle Vol qui travaille sur la créativité. Et donc la créativité est un autre sujet qui me tient à cœur et que j'ai déjà abordé dans le podcast. Et donc Emmanuelle Vol disait que la créativité, ça dépend pas seulement de la capacité à générer tout un tas d'idées nouvelles et novatrices grâce à notre pensée divergente, mais que ça mobilisait aussi de la métacognition pour pouvoir contrôler en fait le résultat de cette génération d'idées, pour pouvoir vérifier que l'efficacité en quelque sorte de cette génération d'idées. C'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir voir si toutes ces idées qu'on a, elles vont dans le sens du besoin, de la demande, de la consigne, etc. Et il y a donc des études qui ont montré que le fait de recevoir des feedbacks pendant la tâche créative, ça avait des effets bénéfiques sur la performance créative. Et je trouve que c'est intéressant à avoir en tête pour toutes les situations où on demande aux élèves de mobiliser leur pensée créative, que ce soit des activités artistiques ou pas, hein, vraiment la pensée créative et donc la capacité à avoir... à générer de nouvelles idées, des idées un peu divergentes, etc. C'est le fait que leur donner du feedback en cours de tâche, au lieu d'attendre la fin de la tâche, ça peut leur permettre de s'améliorer et d'augmenter la performance créative. Donc je pense par exemple à toutes les situations de production d'écrit ou tous les projets qu'on peut avoir où les élèves ont un peu de liberté de création ou des projets aussi artistiques, etc. Donc je vous laisse y penser, je vous laisse digérer cette information et je suis sûre que vous trouverez quoi faire de cette information qui est donc que du feedback en cours de tâche créative permet d'améliorer la créativité. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que vous repartirez en tout cas de cet épisode avec l'intention de diffuser et de distribuer des feedbacks positifs à vos élèves, mais aussi à votre entourage professionnel et personnel, et que vous aurez également envie de partir à la recherche des différentes sources de feedback positif que vous pouvez avoir pour renforcer votre sentiment de compétence et votre motivation au quotidien dans votre pratique. Et puis, je pourrais d'ailleurs vous parler encore des heures, je pense, de ce sujet. Mais donc, je m'arrête là. Et en plus, je crois que je suis à 97 occurrences du mot feedback en 38 minutes d'épisode. Alors, je crois que voilà, on a battu un record. Et je terminerai en disant que si vous avez envie de travailler sur la question du feedback ou d'obtenir du feedback, n'hésitez pas à me solliciter pour un accompagnement parce que je pense que le feedback est présent dans tous les accompagnements que je propose, que ce soit le coaching, le mentoring, les formations, le co-développement. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire deux fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.